La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Nous sommes le 11 novembre. Vous me direz que vous entendez l'émission le 12, mais nous sommes le 11 parce que nous l'avons faite et enregistrée la veille. Et on a pensé qu'il fallait quand même marquer le coup.
Oui, on l'a fait la veille, d'autant plus qu'il y a plein de choses à dire finalement sur ce 11 novembre. On a été effectivement abreuvé d'expositions, de réflexions, de choses comme ça. Puis on s'est dit, il y a quand même quelque chose dont personne n'a parlé. C'est de ces Américains qui sont venus, ces Noirs Américains qui sont venus en France pour faire la guerre. De 14, bien sûr.
Oui, nous allons donc ajouter notre pierre à l'édifice impressionnant des débats en cours. Et pour nous remettre à l'époque d'avant la guerre de 14, pour voir un petit peu où en était la musique noire et déjà son expansion, nous dirons qu'elle se confinait au cakewalk. Le cakewalk était une des formes du ragtime, essentiellement au piano. Et nous avons appris qu'aux environs de 1900-1905, un ami du fameux compositeur Jules Massenet,
qui a beaucoup aimé le Cantal, je voulais juste préciser ça.
Oui, c'est vrai, il y a séjourné, tout à fait.
Et mon grand-père l'a connu à cette occasion, d'ailleurs.
Donc, un ami rendant visite à Jules Massenet, à cette époque-là, donc loin avant la guerre de 14 encore, le trouve en tête-à-tête avec un piano et une cantatrice américaine célèbre, en train d'accompagner des chants américains d'une manière extrêmement entraînante. Et Massenet dit, c'est formidable, ce sont des morceaux qui viennent d'Amérique, c'est absolument délicieux. Et c'était des partitions de ragtime, en fait. Les premières, d'ailleurs, dont on a entendu parler.
Et vous vous souvenez que le ragtime, c'était au fond un mélange, c'est un mélange, entre notre musique européenne et la musique africaine que les esclaves noirs avaient aménagée. Et ça fait des choses tout à fait délicieuses, le ragtime, ça c'est vrai.
Ben justement, voilà une. C'est un morceau qui date d'avant 1900. Ce n'est pas un enregistrement parce que ça n'existait pas encore. C'est un rouleau de piano mécanique perforé. Ça s'appelle « At a Georgia Camp Meeting ». Et le pianiste qui a gravé ce rouleau est resté inconnu. Donc, nous ajoutons, nous, la planète du jazz, au fameux soldat inconnu.
Le jazzman inconnu. Thank you. les Américains, ils entrent en guerre en 1917. Ils ne sont pas rentrés en guerre en 1914.
On les a entendus un petit peu. Puis il y a eu des incidents. Il y a eu le torpillage du Lusitania par un sous-marin allemand. Enfin, ça fait beaucoup. Ils en ont eu marre et ils sont entrés en guerre. Voilà.
Et il y a des Noirs qui sont volontaires. Ils sont volontaires pour y aller parce que il y en a certains qui pensent que c'est une occasion de voir du pays, d'autres une occasion de s'émanciper. Bref, il y a 400 000 hommes qui sont plus ou moins en rapport avec la guerre. Sur ces 400 000, il y en a 100 000 qui sont envoyés en France. Mais voilà, sur ces 100 000, il y a ce gros, gros problème qui est la ségrégation. Et on veut bien d'eux pour faire des petits boulots. Je vous expliquerai un petit peu plus tard ce qu'ils font. Mais en attendant, il y a en réalité entre 18 000 et 20 000 combattants et c'est tout.
Mais déjà, dès avant-guerre, les marches militaires, les airs commémorant des batailles ou choses comme ça sont devenus de plus en plus populaires, à telle enseigne que le fameux It's a Long Way to Tipperary, qui parle d'une bataille déjà bien antérieure, a été composé en 1912. Et si nous parlons de cet air, c'est parce qu'il a été absolument absorbé par les orchestres de jazz et que c'est un vrai plaisir de vous le faire entendre dans une version en plus chantée par une américaine patriote.
It's a long way to Tipperary. Piccadilly, farewell Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. Yes, it's a long way to Tipperary. It's a long way, a long way to go. It's a long,
effectivement, il y a un problème de ségrégation qui vient d'Amérique, hein, bien sûr. Hein. Les Noirs américains ont l'habitude d'être toujours séparés des Blancs.
Mais ce qui étonne beaucoup les Européens, d'ailleurs.
Et là, ça surprend et ça choque. Les Français, ils sont en guerre quand même depuis 3 ans. Et il y a maintenant une vraie fraternité du combat. Et quand ces hommes noirs viennent les aider, les Français sont extrêmement étonnés de voir comment leurs supérieurs, qui sont pour la plupart des Blancs, ou disons 99% c'est des Blancs américains, parlent à leurs compatriotes noirs. Ils sont très étonnés et ils veulent avoir cette fraternité, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, avec les soldats. Mais les supérieurs américains n'aiment pas ça du tout. Parce qu'il y a un système américain de la ségrégation et ils ont peur que leurs noirs, eh bien, ils s'habituent à être considérés égaux.
Voilà, exactement. Et d'ailleurs, inversement, de l'autre côté, il y a toute une communauté intellectuelle noire, notamment à Harlem, qui à cette époque a poussé au volontariat beaucoup de jeunes noirs en pensant que, de cette façon, ils allaient gagner du terrain sur cette fameuse ségrégation. Mais il y a le décor. Et le décor en musique, c'est d'abord le fameux compositeur John Philip Sousa, auteur d'innombrables marches militaires. Et en voici une qu'il a enregistré lui-même, avec son orchestre lui-même, en 1918, et le titre est bien choisi, ça s'appelle « Solid Men to the Front hein ». Ça se traduit tout ça.
Ah
ça.
Bah oui, hein. Ça c'est les costauds là. Hein.
Les costauds qui montent en ligne. Avec une musique pareille, ils auraient incorporé Gandhi en personne.
Oui, mais quand même au front, ça ne se passe pas pareil. Hein. Là, les Américains, ils freinent des quatre fers pour que ces régiments deviennent des régiments de combattants. Ils veulent bien qu'ils soient terrassiers, creuseurs de tranchées,
déchargeurs de bateaux,
qui travaillent aux télécommunications, parce que ça existait déjà. Mais alors, non, combattants, non, ça, ils ne veulent pas. Et les Français, qui sont extrêmement choqués de cette situation, réclament des combattants, ils disent ces Noirs veulent combattre, nous on les veut. Et ça va mettre presque sept mois de bagarre pour que le premier régiment noir puisse aller au front.
C'est considéré par l'état-major français comme une énormité. Et il y a des échanges de courriers, enfin non, on ne peut pas s'étendre trop là-dessus, mais il y a des échanges de courriers au plus haut niveau qui valent leur pesant de caramel.
Et finalement, les Américains, sur 20 000 hommes, ils vont commencer par en lâcher seulement 1 800. C'est vous dire qu'ils n'étaient pas très très d'accord. Hein. C'est au point que les Américains disent « Oh ben nous, on n'a pas de matériel, on n'a pas de vêtements, on n'a pas de casque pour eux. Non, non. » Et c'est les Français qui vont donner à ces Américains leur uniforme à eux, en particulier le casque français bleu.
Le fameux casque Adrien.
Voilà. Eh bien, il va aller sur la tête de ces Noirs, qui se sentent de plus en plus français, d'ailleurs.
Mais d'ailleurs, je vais dire une chose. En fait, ce qui s'est passé au niveau état-major, c'est que la 92e division américaine, elle est carrément passée directement sous les ordres des Français, et qu'on n'en a plus parlé. Parallèlement à tout ça, un homme très en vue à Harlem, qui s'appelle James Rees Europe, hein, Europe.
Non prédestiné, n'est-ce pas ?
Magnifique. Décide de se porter volontaire avec 99 de ses musiciens et débarque en France sous uniforme américain. Évidemment, l'état-major ne sait pas très bien quoi faire de ces 100 noirs musiciens qui jouent en fait une énorme fanfare. Eh bien, il va les faire tourner dans toute la France comme instrument de propagande de l'armée américaine. Et ces musiciens-là vont connaître une énorme popularité en raison de la musique qu'ils apportent avec eux. Alors évidemment, ça ne ressemble pas tout à fait à ce que nous avons connu plus tard. Mais c'est intéressant de passer deux échantillons de cette musique-là, parce que c'est quand même déjà du jazz. Ils arrivent avec les partitions du fameux compositeur Handy, arrangées pour fanfare, hein, c'est tout à fait spécial. Et voici deux morceaux qui vont devenir des standards du jazz plus tard, des morceaux très célèbres.
Memphis Blues et Hesitating Blues.
Et nous n'hésitons pas à vous les passer à la file.
Thank you.
ces soldats noirs vont s'avérer de superbes combattants qui étonnent absolument les Français. Le général Le Gallais disait « On est absolument étonné de l'extrême bonne volonté et de l'ardeur à s'instruire de ces Américains. » Ils disent qu'ils sont courageux, qu'ils en veulent. Et en même temps, les Américains de l'autre côté, les Noirs américains, sont tellement, je dirais presque émerveillés par cet esprit d'amitié qu'ils rencontrent et d'égalité, parce qu'on leur parle comme d'égal à égal, qu'ils sont d'autant plus motivés. Le 369e Rius, c'est un...
C'est le régiment d'infanterie US. Hein.
Voilà, exactement. Il a une réputation au point qu'on les appelle les Hellfighters.
Les chasseurs de l'enfer.
Le seul problème que finalement les Français rencontrent avec ces Américains, c'est que les Français parlent pas bien anglais.
Oui,
et qu'ils ont du mal à communiquer.
Exactement. Et ces fameux Hellfighters vont donner leur nom à l'orchestre de Jim Europe quand il va revenir en 1919 aux États-Unis pour enregistrer les morceaux que vous venez d'entendre et pour en enregistrer un autre. Enfin, il y en a toute une série, hein. Mais l'autre morceau que nous allons vous faire entendre de cet orchestre a un titre quand même assez éloquent. Ça s'appelle My Chocolate Soldier Sammy Boy. C'est un morceau en l'honneur de l'incarnation du soldat noir, en fait.
Un Sammy Boy, c'est ça. Hein. C'est, voilà. C'est un petit soldat, quoi. Voilà.
Et un Chocolate Soldier, c'est un soldat noir,
voilà.
En fait. Voici donc ce morceau dédié à ce fameux Sammy Boy, soldat mythique et inconnu. Mais là, c'est normal qu'il soit inconnu, puisqu'il est virtuel. Et parmi ces soldats noirs qui se battent comme des lions, il y en a un qui va justement y gagner son surnom, le lion.
The Lion, Willie Smith.
Et ce musicien-là, dans l'histoire du jazz et parmi tous les jazzmen qu'il y a eu, c'est celui qui incarne justement le corps expéditionnaire américain pendant la guerre de 14, parce que lui, il y était et il est devenu très célèbre à cause de ça.
Eh bien, cet homme, nous, on l'a connu. C'était pour lui ce moment de sa vie. Sa guerre en France, C'était un souvenir, on le comprend, inoubliable, mais quelque chose qui a été fondateur pour lui. Lorsqu'il est venu chez mes beaux-parents, nous le recevions en famille, je dirais. Cet homme qui avait une belle prestance, qui était déjà, bien sûr, un peu âgé, après avoir baisé la main de ma belle-mère, dans pratiquement l'immédiat, il a dit « Je connais la France, j'aime la France ». D'ailleurs, il a essayé de parler un peu français. C'était pour lui le souvenir, un des souvenirs fondateurs de sa vie. Et c'est ce qu'il a expliqué.
Et c'était tout à fait ça. Le Lion, lorsqu'il terminait un concert, c'était un immense pianiste, hein, il faut aussi le dire, parce que je ne sais pas si on l'a dit. Il était venu d'ailleurs en France à cette époque-là pour une tournée de concert. Il terminait toujours ses concerts par la Marseillaise. La Marseillaise, il savait que tout le monde se lèverait, ça faisait honneur au pays qu'il recevait, il était tout content.
Et ça lui permettait de terminer le concert parce qu'il était déjà un peu âgé.
Voilà, quand il était fatigué des reprises, parce qu'il était bissé, trissé, etc., quelquefois, il y avait une demi-heure de concert en plus parce que les gens demandaient des morceaux. Enfin, quand il avait assez, il jouait à la Marseillaise. Et alors un jour, il a fait ça à Lausanne. Personne ne s'est levé, il était furieux.
Parce que pour un Américain, la Suisse, la France...
On y parlait français.
Voilà, Lausanne, c'est pareil.
Alors pour en venir au jeune Willie Smith, futur The Lion, qui ne l'était pas encore, il débarque donc en France en 1917. Il est artilleur au 350e régiment de la 92e division, la fameuse bataille de la Meuse, bataille de l'Argonne. Et alors, quand ils avaient un moment pour souffler, ils cherchaient à l'arrière du front une maison où il y a un piano. Les maisons étaient plutôt abandonnées, mais il restait encore quelquefois des pianos. Et là, il jouait du piano, tant qu'il pouvait. Parallèlement à ça, il était batteur dans l'orchestre de son régiment qui comptait 70 exécutants et il était basketteur dans l'équipe du régiment. Voilà Willie Smith le Lion, grand sportif, grand musicien, grand combattant. Et il a rapporté de tout ça un répertoire duquel nous extrayons un morceau que vous allez sans doute reconnaître, quoiqu'il ne le chante pas, et qui s'appelle « La Madelon ».
Ce régiment qui restait le plus longtemps au front, c'est-à-dire 191 jours.
Quand on pense que les gens étaient relayés de 10 jours en 10 jours dans l'armée française,
vous
avec
imaginez
un système de roulement, voilà des types qui sont restés plus de 6 mois face à l'Allemand dans leur tranchée. C'est assez hallucinant.
Et ça s'explique aussi toujours par cette espèce de rapport avec les Français. Le colonel commandant du 372e régiment US, il exprime, entre guillemets, la satisfaction qu'ont ces hommes de travailler avec des soldats français qui les traitent en camarades. Dans leur correspondance se manifeste couramment le regret qu'ils auraient à retourner avec des unités américaines. Impressionnant quand même.
Oui, impressionnant. Donc les Américains ne s'étaient pas trompés en pensant qu'il en sortirait quelque chose. Et d'assez redoutable pour eux, parce qu'il est quand même pas impossible que cette aventure de la guerre de 14 ait été un des détonateurs de tout le mouvement qui va amener les Noirs à gagner leurs droits civiques.
D'ailleurs, ils s'en rendent si bien compte, les militaires américains de l'époque, que dès l'armistice, on a rembarqué en premier, ces régiments-là, pour les ramener en Amérique, pour qu'ils soient moins contaminés par cet esprit d'égalité.
Et naturellement, quand on a fait l'immense parade à New York de la victoire de 1918, parce que pour eux, c'est une victoire, les soldats noirs étaient absents du défilé. Donc ils repartent, mais leur musique a laissé des traces et ils vont revenir. La musique en question, elle a laissé des traces en Angleterre, en France et figurez-vous, en Allemagne. Le succès rencontré par l'orchestre de Jim Europe a quand même fait réfléchir quelques-uns. Et un peu plus tard, Will Marion Cook, chef d'orchestre déjà très, très connu, que Duke Ellington appelait le maître des maîtres de notre peuple. Pas mal ça, hein.
Ah.
Il faut dire que Will Marion Cook était, comme Duke, natif de Washington. Ce Marion Cook, il monte un orchestre qui va s'appeler le Southern Syncopated Orchestra, en tablant sur le jazz et en cravatant un jeune prodige qu'il a rencontré pour en faire son soliste principal. Et ce jeune prodige, qui a à l'époque une vingtaine d'années, c'est
Sidney Bechet.
Et c'est comme ça que Sidney Bechet débarque en France en 1919, avec l'orchestre de Cook.
Et on peut dire que la France sera sa deuxième patrie à Bechet.
Ce musicien-là fait un tel effet que les classiques vont voir de quoi il s'agit et qu'un chef d'orchestre célèbre qui s'appelle Ernest Ansermet écrit un article qui est resté une des pierres angulaires de l'histoire du jazz et de son expansion. Il n'a pas été le premier à le comprendre, mais il a compris et très bien expliqué qu'il s'agissait de l'émergence de nouvelles musiques. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que le premier qui a dit ça en Europe est resté anonyme. Alors, après le soldat inconnu et le pianiste inconnu, nous vous offrons le journaliste inconnu qui, dans West Éclair et en 1918, a écrit
à propos du jazz, naturellement. Tout un art savant est en train de sortir de ses chansons de nègre. Il faut savoir qu'à l'époque, nègre n'était pas péjoratif, ça voulait dire noir.
L'acception du mot a évolué depuis. Marion Cook et Sidney Bechet font un tabac en particulier avec un morceau qui s'appelle
Characteristic Blues.
Alors c'est un morceau assez étonnant, un peu gimmick, qui n'a pas été enregistré sur le moment. D'ailleurs, Marion Cook n'a pas enregistré sur le moment du tout, ni Bechet. Que Bechet a tenu à enregistrer plus tard, avec un autre orchestre. Mais nous ne résistons pas à vous le faire entendre, parce que, en plus, c'est un morceau très, je dirais, très musical. Hein. Faut savoir que le jazz était également très musical. C'est là qu'il a commencé.
Got me in the mood. I dreamed last night the sky was falling down.
The sky was falling down.
I dreamed last night.
last night, the sky was falling down.
The sky was falling down.
It was only a bed bug making his laugh go round.
The sky was falling down. Making
around. Wanna take that wig I bought you and let your head go bald.
Let it go bald.
Gonna take that wig I bought you and let your head go bald.
Let it go bald.
Cause without a wig you ain't got no hair at all.
Without a wig you ain't got no hair at all.
Well, all right then.
Avant qu'ils ne repartent, et durant toute cette période où ces musiciens noirs ont vécu la guerre, les Français y vivaient la guerre aussi, et tous ces gens-là, au fond, la musique leur servait à se vider la tête, à essayer d'oublier les horreurs qu'ils vivaient. Hein. Et effectivement, ça préfigure l'après-guerre, où la musique va totalement changer de style.
C'est certain que... On change d'époque, on change de mentalité, on change même de société. Si tu penses par exemple au rôle des femmes dans la société avant et après 14, c'est considérable, ne serait-ce que cet exemple-là. Et avant de repartir, certains orchestres militaires noirs enregistrent à Paris parce qu'on leur demande d'enregistrer. La marque Pathé s'est fait un devoir de garder ce témoignage. Et nous allons vous faire entendre un orchestre militaire qui vient de gagner la guerre, qui se prépare à repartir. C'est celui du 158e d'infanterie, dirigé par le lieutenant Eisweiler, et qui joue...
The Storybook Bowl.
Thank you.
Tout à l'heure, on vous disait que cette guerre, quand même, elle a absolument bouleversé les habitudes. Les gens qui vivaient et qui étaient à 80% ruraux ont été jetés sur les routes, jetés dans la guerre. Les femmes ont commencé à travailler pour remplacer les hommes. C'est un bouleversement social immense. Et la musique, eh bien, elle va suivre le même chemin. C'est-à-dire que les musiques qui étaient souvent régionalistes par petits pays, etc., eh bien, elle va devenir bien plus universelle parce que ces jeunes paysans, ils ont quitté leur pays, ils ont vu d'autres régions et ils sont prêts à écouter d'autres musiques, des musiques jeunes.
Eh oui, ça a beaucoup brassé, mélangé, tourné dans tous les sens.
Et avec des sonorités tellement étonnantes qu'on va vous livrer une réflexion tout à fait amusante du chef d'orchestre de la garde républicaine lorsqu'il a entendu l'orchestre de James Reese Europe. Vous savez, celui qui est arrivé avec ses 99 musiciens.
Et que vous avez pu entendre précédemment.
Ce chef d'orchestre de la garde républicaine, il a été tellement étonné qu'il a demandé « Dites donc, pour jouer ça, vous avez des instruments spéciaux ?» Voilà, je vous livre ça,
oui,
tel la... quel.
Oui, moi j'aurais répondu « Oui monsieur, j'ai une trompette à ressort, voyez-vous. » Naturellement, Will Marion Cook n'est pas le seul à vouloir venir jouer en Europe. Un autre chef d'orchestre, nommé Louis Mitchell, décroche un contrat absolument mirifique début 1919, mais alors pour une tournée à tout casser, enfin quelque chose qui va durer des années, et puis il rassemble une troupe de 50 personnes, et tout tombe à l'eau parce que le contrat ne suit pas. Et le pauvre Mitchell, il décide, c'est un coup parti, il a d'ailleurs déjà dû prendre des billets, enfin je sais pas. En tout cas, il débarque quand même en Europe, alors là, sans grand-chose devant lui. Et en fin de compte, ça se dépatouille, et puis il atterrit dans une boîte, une autre, et avec ses musiciens, il va finir par rester en France pendant plusieurs années. Et c'est le premier orchestre noir régulier qui est joué en France. Cet orchestre comporte un trompettiste qui s'appelle Cricket Smith, qui est un des tout premiers trompettistes de jazz connus, et qui n'est pas du Sud. C'est un trompettiste de l'Est, des États-Unis. C'est le tout premier, une sorte de Buddy Bolden de l'Est, si on veut. Le milieu musical français, lui, il est en train d'ouvrir tout grand ses oreilles. Tous les musiciens qui jouent dans les musicals ou les bals, ils en prennent plein la tête, là. Et le jazz commence à démarrer, d'abord à Londres et à Berlin, et puis en France. Mais tu vois, il y a des musiciens français, dans les années 20, qui jouent déjà dans des orchestres à Berlin. Christian Wagner, le saxophoniste, par exemple. Nous allons passer, pour terminer cette émission, quatre morceaux de l'orchestre de Louis Mitchell. Vous pourrez apprécier. 1921, hein, quand même, hein, l'enregistrement.
Alors, vous entendrez « Ain't we got fun ?»
Autrement dit, « Elle est pas belle, la vie ?»
Là, attention, c'est en français, « J'en ai marre ».
Ah, parce que le jazz avale déjà tout ce qu'il rencontre pour le transformer en jazz. Hein. C'est une chanson française. Hein.
« Everybody step ».
Et pour finir, si nous en avons le temps, Sing 'em Blues.
Thank you.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.